RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, la guerre au Soudan. RFI consacre une journée spéciale à ce conflit avec des reportages exceptionnels de notre envoyé spécial Elliot Braché sur place. Dans quelques instants, rencontre avec des femmes soudanaises. Elles sont de plus en plus nombreuses à s'engager. 25 novembre, la journée mondiale consacrée à l'élimination des violences contre les femmes, justement. Et cela passe évidemment, ce combat, par la sensibilisation des hommes. Une ONG de RDC l'a bien compris. Elle prône la masculinité positive dans l'Est du pays. La RDC, où le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics Alexis Guissaro est visé par une motion de défiance. Une cinquantaine de députés de la majorité l'accusent d'inefficacité et de mauvaise gestion. Et puis les commémorations qui approchent au Sénégal. Le massacre de Tiaroy le 1er décembre 1944. Elles étaient déjà en première ligne de la révolution, ayant chassé Omar el-Béchir du pouvoir en 2019. Vous vous souvenez peut-être de cette photo. Alaa Sallah, grimpée sur le toit d'une voiture, doigt levé, pour haranguer une foule de manifestants à Khartoum. Une photo devenue le symbole de cette révolution. Eh bien, certaines de ces femmes soudanaises prennent désormais les armes pour combattre dans les rangs de l'armée régulière. L'armée du général Al-Bourhan, confrontée depuis le 15 avril 2023 aux paramilitaires des forces de soutien rapide, emmenées quant à eux par le général Emetti. Elle serait actuellement quelques milliers engagées dans ce conflit. À Omdurman, en banlieue ouest de Khartoum, reportage de notre envoyé spécial, Elliot Braché.
Dans la cour d'une école pour filles reconvertie en camp d'entraînement, une centaine d'apprentis soldats se tiennent au garde-à-vous. Avant la guerre, Riham El Hadi, 18 ans, aurait dû passer le baccalauréat. Elle s'est retrouvée piégée dans les combats à Khartoum.
On était coincés dans un quartier, on ne pouvait pas sortir, mais on pouvait les voir. Les paramilitaires frappaient, pillaient. Il y a eu des viols, ils pénétraient dans les maisons et prenaient les filles de force devant leurs parents. C'est arrivé à ma voisine. Des hommes enturbanés sont arrivés, ils portaient l'uniforme des forces de soutien rapide, ils ont enlevé la fille et ils l'ont emmenée dans un endroit inconnu. Après quelques jours, on a essayé de payer une rançon pour la ramener chez elle, mais on a appris qu'elle avait été violée et tuée.
La plupart de ces femmes ont fui les zones contrôlées par les troupes du général Emetti. Désormais, engagées sous les drapeaux du côté de l'armée régulière, elles apprennent la discipline militaire, le maniement des armes, le kung-fu et le tir.
Je m'appelle Rana Mohamed Osman. Ce qui m'a poussée à m'enrôler dans l'armée, c'est ce que j'ai vu de mes yeux. Ce que nous avons vu, ça ne se décrit pas, ça ne se raconte pas. Nous avons été témoins d'innombrables violences. Nous avons vu des vieillards se faire battre, des filles se faire violer. Ici, je défends ma patrie, je défends les filles qui ont été violées. Je veux participer à l'effort de guerre. J'espère qu'ils m'enverront au front.
S'il y a peu de chances que ces femmes soient déployées un jour sur le champ de bataille, savoir porter une arme les rassure. Toutes sont unanimes, elles ne se sont jamais senties aussi vulnérables. Elliot Braché, Khartoum, RFI.
La guerre au Soudan et ses conséquences. Journée spéciale donc aujourd'hui sur RFI. Après ce journal, vous retrouverez notamment un autre reportage, le témoignage poignant d'une jeune femme victime de violences sexuelles dans le cadre de ce conflit. Et c'est justement pour cette jeune femme et pour toutes les autres victimes que la date du 25 novembre marque aujourd'hui la journée mondiale consacrée à l'élimination des violences contre les femmes. Phénomène encore bien trop présent. On le voit aussi ce matin dans l'est de la RDC, où les Nations Unies ont recensé depuis le début de l'année pas moins de 52 000 victimes. Et il n'y a pas que les violences fruits de la guerre ou de la promiscuité dans les camps de déplacés, non. Il y a aussi les violences conjugales ou même les violences socio-économiques bien réelles, elles aussi. Alors depuis 2 ans, l'ONG locale Compassion pour les déshérités mène une campagne de sensibilisation. Auprès des hommes, elle promeut la masculinité positive à travers une brochure, notamment baptisée « Cahier de l'homme engagé ». Denise Maillot.
Sur la couverture de la brochure, on voit une femme qui porte une pancarte « Non à la violence basée sur le genre ». Le document contient de courts messages qui incitent les hommes à s'engager dans ce combat comme des alliés. Espoir Kitumaini, chargé des programmes de l'ONG Kodesh, saisit chaque visite pour sensibiliser les hommes au changement.
Quand vous passez dans des cabarets maintenant, ce sont des hommes qui sont plus enivrés, qui viendront à la maison sans rien apporter et qui vont commencer les coups, les injures et qui cherchent comment ravir la maman. L'épée qu'elle cherche,
Au-delà des conflits armés, l'exploitation de la femme est une forme de violence très répandue à Goma. Cette campagne sur la masculinité positive porte parfois ses fruits. Au sein de certains ménages, les femmes ont pu trouver une place plus équitable. Autre avancée notable selon la Kodesh, la femme n'est plus écartée des héritages, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques décennies. Denise Mayo, Goma. RFI.
La RDC, le Nord-Kivu justement, et l'Ituri, deux provinces où la première ministre Judith Suminwa vient d'effectuer une mission d'évaluation de l'état de siège décrété sur place par les autorités il y a 3 ans maintenant. Visite de terrain débutée vendredi et refermée hier dimanche. La RDC encore et cette motion de défiance sur la scène politique. Elle vient d'une 50aine de députés de la majorité. Elle vise un membre du gouvernement, à savoir Alexis Guissaro, le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, accusé d'inefficacité et de mauvaise gestion. Son sort et cette motion doivent être normalement débattus à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée réunie en séance plénière. À Kinshasa, précision de Pascal Moulégois.
Alexis Guissaro, membre du parti présidentiel, est mis en cause notamment face au délabrement très avancé des routes à travers les villes congolaises, Kinshasa en particulier. Les auteurs de la motion, la première depuis 2 ans, écrivent, je cite, qu'il s'observe une absence quasi totale des travaux de grande envergure dans les provinces. Ajoutant qu'à Kinshasa, les routes disparaissent du jour au lendemain sans la moindre attention de la part du ministre. Les routes nationales qu'empruntaient les usagers sans trop de peine avant l'avènement d'Alexis Guissaro à la tête du ministère sont dans un état de délabrement indescriptible, précisent les députés. Concernant la gestion de son ministère, le ministre se serait octroyé 2% de chaque contrat d'infrastructure au profit de son cabinet et les fonds seraient directement versés dans les comptes du cabinet. Le ministre est sommé de répondre à ses griefs avant les votes. La motion a été signée par 58 députés, dont 9 du parti présidentiel, seulement un opposant, et 48 autres des partis alliés au sein de la majorité. L'initiative est rejetée par les partis présidentiels qui appellent ses élus à faire échec à cette motion de censure contre l'un des siens. Pascal Moulégois, Kinshasa, RFI.
La scène politique de Namibie à présent. Dernier meeting avant les élections prévues après-demain, mercredi. Hier, dimanche, la SWAPO, le parti au pouvoir depuis l'indépendance de 1990, a tenté une démonstration de force en réunissant ses partisans. Ultime manière de galvaniser les troupes avant un scrutin qui s'annonce pour le moins serré. Florence Maurice.
Concert d'Afro House, voitures de luxe rutilantes et prières géantes. Le parti au pouvoir n'a pas lésiné pour la dernière étape de son marathon de campagne. Mais en dépit de cette ambiance festive, le discours prononcé par la candidate de la SWAPO témoigne de l'incertitude qui règne à quelques jours du vote. À 72 ans, l'actuelle vice-présidente a demandé à ses partisans de se montrer, je cite, très sérieux face à la menace d'une victoire de l'opposition. Elle les a incités à continuer de convaincre leurs proches et à leur expliquer comment aller voter. Au cours de son discours, Fleuve, elle a aussi tenté de défendre le bilan de son parti, un parti affaibli par une série de scandales de corruption, alors que la Namibie reste le deuxième pays le plus inégalitaire dans le monde. Si elle était élue, la candidate de la SWAPO deviendrait la première femme à diriger la Namibie, mais elle a face à elle un candidat de poids, Panduleni Itula. En 2019, il avait fait dissidence de la SWAPO pour se présenter en indépendant et avait tout de même raflé près de 30% des suffrages. Depuis, il a fondé son propre parti.
Les explications de Florence Maurice. La COP29, à peine refermée à Bakou en Azerbaïdjan, les discussions pour la planète se poursuivent avec cette fois les négociations engagées depuis 2 ans sur la question de la pollution plastique. Elles réunissent 175 pays qui se retrouvent pour une réunion cette semaine à Busan en Corée du Sud. Pour schématiser dans ce dossier, il y a 2 camps qui se font face. Le premier, majoritaire, qui souhaite un traité contraignant pour réduire fortement la production plastique. Le second camp, emmené lui par les pays pétroliers, l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Russie en tête, qui souhaitent limiter les mesures au traitement et au recyclage des déchets plastiques. Le travail de mémoire, 80 ans après le massacre de Tiaroy au Sénégal, c'était le 1er décembre 1944, lorsque des tirailleurs de retour de la Seconde Guerre mondiale étaient abattus par des officiers français. Un drame que l'ancien président français François Hollande qualifiait d'ailleurs pour la première fois de massacre ce matin sur notre antenne, à l'heure où une délégation d'historiens et d'archivistes sénégalais sillonnent actuellement les fonds d'archives français. Bonjour Céline Pellerin.
Bonjour Sébastien.
Et oui, ils sillonnent les fonds d'archives français, ces historiens sénégalais, car depuis 2014 et la présidence de François Hollande, justement, la France assure avoir remis au Sénégal une copie de toutes les archives qu'elle possède sur ces événements. Mais Céline, Dakar suspecte l'existence de documents secrets.
Oui, à son arrivée en France, la délégation a été reçue au ministère des Affaires étrangères. Paris promet de jouer la transparence, d'ouvrir à la délégation sénégalaise les portes de tous les fonds d'archives qu'elle voudrait consulter. L'initiative de cette mission vient du président sénégalais. C'était en octobre, au téléphone avec le président Macron. Bassirou Diomaye Faye a insisté pour que son pays puisse accéder à une série d'archives. Des documents qui permettraient, Sébastien, selon certains historiens, de répondre à des questions qui sont toujours sans réponse, 80 ans après le massacre. Combien de victimes? Où sont-elles enterrées? Ou encore, quel était le montant de la solde de guerre que la France leur devait? Selon Paris, tous les documents existants ont déjà été remis, d'autres auraient disparu ou n'auraient jamais existé.
Mais je le disais, Céline, Dakar soupçonne donc que certaines de ces archives auraient pu être dissimulées.
Selon Mamadou Diouf, qui est l'historien qui préside le comité de commémoration de Tiaroy, la délégation a donc pour mission de sillonner les fonds d'archives français afin d'identifier et de cartographier ce qui est disponible pour lancer de nouvelles recherches. Selon nos informations, il devrait notamment se rendre aux archives diplomatiques de Nantes, aux archives militaires de Pau. La France, elle, espère un apaisement dans ce dossier qui encombre la relation franco-sénégalaise depuis maintenant des décennies.
Merci Céline Pellarin. Et en amont de ces commémorations qui sont donc prévues le 1er décembre au Sénégal, je vous invite à retrouver à partir d'aujourd'hui en ligne les 4 premiers épisodes de notre série Enquêtes africaines qui sont consacrées justement à ce massacre. Enquête podcast signée Charlie Dupiau. Un mot avant de laisser RFI Matin se poursuivre sur cette plume qui s'envole. Le peintre et poète d'origine sud-africaine Brayton Barr s'est éteint à Paris où il résidait. Lui qui avait été naturalisé français, il avait 85 ans. Il laisse une œuvre riche, connue surtout en Europe pour ses toiles. Quand ses poèmes sont enseignés dans les manuels scolaires sud-africains, la nation arc-en-ciel, où il fut un militant anti-apartheid. Il a passé 7 ans en prison, notamment pour cela, entre 1975 et 1982. RFI, on continue notre matinale. Vous retrouvez tout de suite Julien Coquel-Rohem.